quand même, ce qui nous montre que, comme tu le disais, t'es arrivé au mois de septembre, ton intégration a été rapide, on va dire fulgurante en tout cas au sein du club.
Bah oui, parce que je me suis assis à la table avec une personne, donc Bernard Adel, hein, j'ai envie de le reciter parce que c'est vraiment quelqu'un qui a changé ma vie, il m'a fait confiance tout de suite. D'autant plus qu'une semaine après lui avoir serré la main en lui disant que je prenais les moins de 17 ans, j'ai rencontré Frédéric Mérieux, qui est un ancien joueur de l'OM, et qui lui, ici à Toulon, est l'entraîneur du Racing de Toulon. Le Racing Toulon, c'est l'équivalence pour nous, pour ceux qui connaissent un petit peu, à l'Olympique Saint-Étienne, c'est-à-dire un club où ils forment uniquement des jeunes. Et je l'ai rencontré, Frédéric Mérieux, lors d'un arbitrage, et il m'a dit, j'ai appris que tu venais dans la région, apparemment t'as pas de club, est-ce que tu voudrais venir travailler avec moi? Et je lui ai dit que j'étais désolé parce que je venais de m'engager avec le club du LAS. Et ben c'est vrai que j'aurais peut-être pu venir aussi participer au tournoi des petites têtes avec le Racing Toulon si j'avais pas fait la rencontre de Bernard Adel quelques temps avant. Mais je regrette pas parce que vraiment j'ai pu m'épanouir tout au long de la saison avec lui qui m'a soutenu avec les moins de 17. On a créé des stages pendant les vacances. Plus que des stages de footballeurs, on a voulu créer des stages foot citoyenneté. C'est-à-dire que à l'intérieur du stage, chaque matin, on faisait une heure et demie de travail technique et toujours en fin de matinée, de 11h à midi, on faisait venir un intervenant aussi bien au niveau de la gendarmerie, on a fait venir des intervenants au niveau de la marine. On a fait intervenir le réseau Mistral. Le réseau Mistral ici, c'est toute l'organisation des bus et du réseau routier. On a fait intervenir une personne qui travaille chez Orange pour leur expliquer l'organisation des différents systèmes de communication. On a essayé voilà, de faire venir, de trouver des intervenants extérieurs. On a organisé un spectacle de magie. On les a emmenés à la piscine. On a fait des courses d'orientation. On a essayé de trouver tout un tas d'activités extra-football. Pour montrer aux enfants qu'il y avait le foot, certes, c'est notre passion commune, mais il y a tout un tas de choses à savoir autour du football pour pouvoir être le meilleur citoyen possible et s'exprimer du mieux possible. Donc voilà, j'ai posé ma petite griffe aussi à ce niveau-là, grâce à cette personne, Bernard Adel, parce qu'on a le même feeling, on a la même vision des choses, et on a réussi un petit peu, j'ai envie de dire, à fusionner nos idées pour arriver à mettre... des projets sympas ensemble.
Oui, puis c'est vrai que toi, je dirais que tu arrives avec une expérience aussi. Hein. Comme tu disais, tu étais dans les années 2000, tu étais à Perpignan, tu étais dans le département il n'y a pas si longtemps que ça, puisque tu étais préparateur physique au CO Le Puy. Donc tu as quand même déjà un bagage. Hein. C'est vrai que quand tu arrives avec ton CV, ils savent qu'ils ont affaire à une personne qui va s'investir.
Bon, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de travailler avec Franck Enduro quand j'étais à Perpignan, parce que mes idées, moi je les ai j'ai certaines idées depuis le départ, mais il y a des personnes qu'on croise dans la vie qui nous font franchir un cap ou pas. C'est vrai que si j'avais pas été travailler pendant 2 ans à Perpignan, si j'étais toujours resté dans mon club de Saint-Julien-Chapteuil, j'aurais peut-être pas pu m'enrichir la possibilité voilà d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, de piquer un petit peu les idées que j'ai pu apprendre ailleurs, de les exporter à Saint-Julien-Chapteuil, de les exporter à Blavozy quand j'ai entraîné Blavozy, à Brive-Charensac. Voilà, moi j'espère que tous les joueurs que j'ai entraînés, ils gardent un souvenir positif de l'année qu'on a passée ensemble, que voilà, s'ils retiennent une chose de moi, ben c'est voilà la motivation, le dépassement de soi. Moi c'est vrai que je suis branché là-dessus. J'ai envie que les joueurs aient la meilleure technique possible, mais aussi qu'ils soient capables de se transcender un petit peu. Et aujourd'hui, je trouve qu'on se heurte à une génération PlayStation, où les jeunes, des fois, s'ils ont le choix à faire entre un match de foot et une partie de PlayStation avec les copains, ils peuvent se mettre dans le canapé, dans la chambre, et faire la partie devant la télé, et il n'y a que les pouces qui travaillent. Alors que je pense que nous, il y a une vingtaine d'années, on était toujours à courir à droite à gauche, à vouloir jouer au foot, à organiser des matchs un petit peu partout. Et voilà, il faut pouvoir trouver ces personnes qui ont encore envie d'inculquer le dépassement de soi. Et malheureusement, certains éducateurs aujourd'hui qui ont 18, 19 ans ou 20 ans, ils sortent aussi un petit peu de la génération PlayStation, et le dépassement de soi, je trouve qu'il est en train un petit peu de disparaître dans certains états d'esprit. Et si moi je peux le garder frais un petit peu partout où je vais passer, ce sera mon leitmotiv en tous les cas à chaque fois.
Alors, un petit peu, alors, c'est pour faire un parallèle rapide, mais avec, je sais pas si tu as vu pour le match de Toulouse en championnat, le discours d'avant-match de Pascal Dupraz, donc l'entraîneur toulousain, pour les motiver, il leur a passé des vidéos de supporters et en leur disant voilà, ils vous aiment, ils comptent sur vous et tout, il leur a vraiment donné le mordant pour le match à la mi-temps, pareil, hein, il leur a, et c'est vrai que du coup, on se rend compte que c'est vraiment ça qui fait aussi la différence, c'est d'avoir des personnes derrière qui savent pousser avec les mots justes. Et je parlais de Pascal Dupraz, mais on sait que à tous les niveaux, c'est un petit peu le rôle de tous les entraîneurs, c'est de réussir à trouver ces mots et de justement faire comprendre un petit peu aux joueurs dans des situations où on joue le maintien, où on joue dans des situations ou des matchs qui sont un petit peu compliqués, et qu'on peut faire changer le sort d'un match en se dépassant, quoi, en étant un petit peu à 300% au lieu d'être à 100% habituellement.
Je t'avoue que je me suis réveillé ce matin à 7h et en me connectant sur Facebook, je suis tombé sur ce discours-là. J'en ai un petit peu les larmes aux yeux parce que c'est vrai que à travers ce qu'il essaie de véhiculer comme valeur, je trouve que ce qui est important pour un joueur de foot, des fois, c'est d'être acteur de sa propre performance et de ne pas être tétanisé par un enjeu. Pour vivre un événement pleinement, il faut être capable, comme tu as dit tout à l'heure, de donner un petit peu plus que 100%. Mais dans un sport collectif, il y a possibilité de compter sur le voisin. Mais si 11 joueurs en même temps sur le terrain, ils comptent un petit peu trop sur les autres, ils vont avoir tendance à passer à côté de l'événement. Je me souviens d'une phrase de Michel Platini qui disait toujours, le plus important dans une performance, c'est d'être un petit peu acteur et spectateur de son jeu. Il faut arriver à jouer un match et à imaginer, si des fois on était dans la tribune, comment on aimerait nous voir jouer. Si on arrive à faire le lien entre ces deux états d'esprit, on peut arriver à donner vraiment la plénitude de son talent. Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de le faire. Lorsqu'on arrive à se mettre dans cette bulle-là, d'associer ses qualités avec celle de son coéquipier, et surtout d'avoir envie de donner le meilleur, pas que pour soi, pas pour ressortir avec la gloriole et qu'il n'y ait que notre nom qui ressorte dans la presse, mais qui est vraiment le nom de notre association dans laquelle on aura mis toutes nos capacités. Et là, voilà, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Forcément, un match, c'est un adversaire contre un autre, mais je crois que c'est souvent celui qui arrive le plus allier ces deux choses-là, acteur et spectateur de sa performance, qui sont les meilleurs joueurs.
Alors, tu vois, juste pour dire un petit mot tout à l'heure, après l'interview, on va dire un petit peu en conclusion de l'émission, on va passer un petit peu les meilleurs moments de la saison, enfin sur des résumés. Et là, j'ai choisi aujourd'hui de prendre le match Saint-Julien-Châteauil contre le FMF Marseille en Coupe de France féminine. Et justement, je crois que ça symbolise complètement ça, c'est-à-dire une équipe qui est en dessous, on va dire, du niveau de l'adversaire, mais qui sur 90 minutes va se dépasser, surpasser, et au final va s'offrir une victoire qui avait été quand même assez magique, hein, faut le dire, en Coupe de France féminine. Battre une division 2 quand on est au niveau régional, c'était un petit peu, enfin même complètement inattendu, mais c'est que ça, c'est quand même de réussir à 11 joueurs sur un terrain ou 11 joueuses, de réussir à se motiver les uns les autres pour justement faire la performance, et ça c'est quand même très compliqué pour un entraîneur de réussir à motiver tout le monde en même temps.
Moi je trouve qu'il y a... Il y a une petite chose un petit peu à essayer de donner aux gens, parce que c'est toujours plus facile à la fin d'un match de dire, allez, la victime désignée, c'est l'arbitre. La deuxième victime, c'est le gardien de but. La troisième, éventuellement, le défenseur central. Et puis, pourquoi pas, l'attaquant qui a vendangé les occasions. Si déjà on laisse tout ça de côté et qu'on propose à ces joueurs de donner tout ce qu'ils ont, d'accepter l'erreur du partenaire, suite à une erreur d'un partenaire, venir le voir et lui dire « c'est pas grave, je vais te remplacer pour l'erreur que tu as faite, je vais compenser et le coup d'après, c'est toi qui vas me renvoyer la balle ». on peut proposer ça à un groupe de se dire pendant 90 minutes, on oublie un petit peu sa fierté, et on essaye de trouver tous les artifices qui peuvent conduire à une victoire, et à la fin du match, on rentre chez soi, on se regarde devant une glace, et on dit, est-ce que moi, j'ai donné tout ce que je pouvais donner pour mon équipe, j'ai pas triché, et je me suis dépassé, et j'ai tout donné. Si on est capable de faire ça, de rentrer chez soi après quelconque performance, quelconque manifestation sportive à laquelle on a participé, si on est capable de ne pas se mentir devant la glace, je crois qu'on fait partie des meilleurs compétiteurs qui puissent exister. Si les 14 se retrouvent le même jour dans cet état d'esprit, moi je pense que tous les exploits sont possibles, et c'est souvent le vrai travail de l'éducateur, c'est de pouvoir arriver à conjuguer le talent de 14 personnes le même jour pour réussir l'exploit. S'il y a des performances en Coupe de France, masculine, féminine, s'il y a des exploits qui sont réalisés entre des équipes de niveau CFA2 qui arrivent à tenir la dragée haute à des équipes de Ligue 1, c'est forcément que l'entraîneur, il a réussi à faire passer un message, et surtout que ses joueurs ont adhéré à son discours et ont cru à son message. Quand on écoute le discours de Pascal Duprat, c'est à double tranchant. Si on est tétanisé par ce qu'il vient de nous dire et que l'émotion prend le dessus sur le plaisir aussi, on a une chance de passer à côté. Si par contre on arrive à prendre juste la dose d'émotion qu'il a voulu partager, mais qu'on arrive à donner la pleine mesure de son talent, ben là je crois que on est capable de tout donner et de réaliser de belles performances.
Ouais, c'est marrant parce que c'est vrai que je me dis que tu t'entendrais sans doute très bien avec justement Pascal Duprat sur ce que tu viens de dire, parce que quand tu disais de pas câbler un tel ou un tel sur une erreur, je crois que c'est ce qui en sortait également à la mi-temps du match, hein. Je crois qu'ils ont fait un reportage sur Canal+, à la mi-temps, en première mi-temps, il y a Braithwaite qui rate un penalty. Ils sont menés 1-0, s'il marque, bah, il égalise, donc là ça relance le match, il le tire au-dessus, et là à la mi-temps, il va dire, c'est bien, t'as pris ta responsabilité, c'est pas grave, tu l'as manqué, on y croit, il reste encore 45 minutes, on va le faire. Et c'est vrai que du coup, il a dédramatisé complètement la situation, parce que on va dire, ses coéquipiers auraient pu dire, ouais, mais bon, il l'aurait mis au fond, on n'est plus dans la même situation, alors que finalement, bah, là, les joueurs en deuxième mi-temps, on a vu ce que ça a donné, hein, du coup, ils vont aller chercher une victoire et vont se maintenir, mais c'est que sur le discours déjà de l'entraîneur, on sent que dans les propos, voilà, il faut y croire aussi, et je crois que c'est le message qu'il fait passer, bah, c'est un message positif, bah, qui a permis à ses joueurs d'aller chercher ce maintien.
Tout à fait, bah, écoute, si on pouvait donner un petit parallèle, bah, y a Duprat d'un côté qui dit à ses joueurs, donnez le meilleur de vous-même, vous en êtes capable, vous allez aller vers la victoire, vous allez écrire l'histoire. Il leur propose quelque chose de positif. Il y a un discours qui est juste à côté, à Saint-Étienne, avec Christophe Galtier, qui emmène son groupe à Nice et qui leur dit « Attention de ne pas péter les plombs, attention de ne pas prendre de carton rouge, attention, il ne faut surtout pas jouer en infériorité numérique, attention, il ne faut pas perdre. » Au final, il y a un esprit de peur de perdre. Il est en train de leur dire qu'ils sont capables de péter les plombs. Il est en train de leur dire qu'ils vont peut-être perdre. Et au final, ils finissent à 9, ils jouent pas la Coupe, la Champions League, ils jouent pas l'Europa League. Et je trouve que vaut mieux essayer de faire passer un discours positif en donnant le maximum de confiance à ses joueurs. Quand il est sorti du match, Galtier, au micro de Canal+, il a dit, pourtant, je les avais prévenus qu'il fallait surtout pas qu'ils pètent un câble, il fallait surtout pas qu'on prenne de carton rouge. Si on met dans la tête des gens qu'on a peur, déjà qui disjoncte, les gars, ils le ressentent aussi. Et à la moindre étincelle, comment un mec comme Tabanou, il peut aller découper un joueur à 80 mètres de ses cages? Comment un gars comme Malcuit, qui pour moi a apporté vraiment un plus sur toute la deuxième partie de la saison Saint-Etienne, il arrive à prendre deux cartons jaunes en deux temps, trois mouvements? C'est vrai qu'il y a des choses qui m'échappent un petit peu. Ça veut dire que le discours, à un moment, il a peut-être un petit peu dérapé et les joueurs ont pas saisi le message que l'entraîneur voulait faire passer.
Alors justement, bah, pour en revenir à toi, pour toi, c'est plus simple d'entraîner des joueurs, on va dire, mature, comme c'était le cas notamment, t'étais préparateur, on disait, t'étais entraîneur aussi, hein, mais préparateur physique la saison dernière au CEOLPIE, est-ce que c'est plus facile d'avoir affaire à des adultes ou plutôt à faire passer un message à des enfants comme là ce sera le cas avec les moins de 13 ans?
Je trouve qu'avec les moins de 11 ans, les moins de 13 ans, on a quand même la même mise sur eux. Si on veut hausser le ton, je pense que c'est plus facile de rétablir l'ordre et d'être écouté. Avec la catégorie moins de 17 ans, c'est très difficile. Après, avec les seniors, moi quand j'entraînais Blavozy par exemple, j'avais la chance d'avoir des gars qui étaient à l'écoute. Il y avait des relais surtout, parce que ce qui est important, c'est d'avoir des relais. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas prendre... moi j'avais comme relais Julien Paysac, et j'avais au milieu de terrain Thomas André, et en attaque, j'avais Pierre-Loïc Fort. Le souci, ce qu'il fallait faire attention, c'est que l'ensemble du groupe ne pense pas qu'il n'y avait que ces trois joueurs-là qui m'intéressaient. C'était d'être capable de faire passer un discours avec ces joueurs-là, mais qu'ils puissent bien communiquer à ceux qui étaient à côté d'eux sur le terrain, et qu'une doublette, une charnière centrale, Julien Paysac, Kevin Echobar, que Kevin Echobar, il se dise pas, il n'y a que Julien Paysac à qui il fait passer le message. Il fallait que chacun fasse bien passer le message à ceux qui étaient à côté, et qu'ils ne se sentent pas exclus. Et ça, c'est le travail qu'il y a à faire deux fois par semaine à l'entraînement, mais tous les jours de la semaine, par un texto, par un petit coup de fil, par aller boire un coup avec un joueur, parce que peut-être il vient de perdre son travail, peut-être il a eu un petit souci dans sa famille, et l'entraîneur, il doit essayer de tout savoir. C'est vrai que c'est épuisant, mais je crois qu'il y a pour moi 20% de travail footballistique, 80% de mental aujourd'hui, et les 80% de mental, ils se font au quotidien. Il faut aimer son groupe, il faut aussi que son groupe il nous aime. S'il y a le bon échange, je crois qu'on peut arriver à faire des choses vraiment sympas. Après, une fois que le groupe, s'il y a une cassure avec l'entraîneur, on voit bien qu'un mec comme Hubert Fournier en début de saison à Lyon, les mêmes joueurs font une première partie de saison catastrophique. Ils gagnent un match sur 8 en Champions League. Et puis, comme par hasard, on met un formateur, Bruno Genesio, qui parle avec son cœur, qui a connu ces joueurs-là au centre de formation, qui les prend comme ses petits frères et qui fait une deuxième partie de saison exceptionnelle. Je crois qu'il faut arriver surtout à vendre son discours, surtout à ne pas mentir à ses joueurs, mais à vouloir les emmener dans sa barque et vouloir les emmener le plus loin possible. Une fois que la passion elle est partagée, que les gars ils ont envie de mouiller le maillot pour leur coach, je crois que l'osmose elle est trouvée, et le discours au moins pour 3 saisons il fonctionne. Après un cycle d'entraîneur, on sait très bien que passer 3 saisons, s'il n'y a pas un renouvellement permanent de l'effectif, les joueurs
il y a de la lassitude qui s'installe,
C'est pour ça que c'est bien des fois, peut-être après 3 saisons passées avec une catégorie, de voir un petit peu ce qui se passe en dessous, de revenir chez les jeunes, pour qu'il y ait aussi une remise en question permanente de son propre discours. Parce qu'on sait que je crois qu'il faut chaque jour essayer d'apprendre et à aucun moment se dire que ça y est, on est arrivé, on détient la vérité universelle. Voilà. Je crois que l'ennemi majeur de tout être humain, c'est le moment où il se dit... ça y est, tout est acquis, j'ai gagné, je peux me suffire à moi-même. Je crois que si on est capable chaque jour de se dire, allez, quel défi je vais pouvoir relever demain et qu'est-ce que je vais pouvoir partager avec quelqu'un, chaque jour, il faut essayer de trouver, je trouve, un petit but, un petit objectif à atteindre. Et c'est ce qui nous permet d'avancer un petit peu chaque jour. Enfin, moi, je fonctionne comme ça.
Alors, toi, ton prochain défi, donc, c'est les U13. Alors, juste pour terminer, peut-être que t'as un projet, à long terme. Est-ce que t'as déjà, on va dire, un souhait, en tout cas, un rêve, peut-être au niveau du football, être entraîneur, dans un niveau supérieur, peut-être que ce serait de rester avec les enfants. Est-ce que ce serait d'accéder à une équipe, d'adultes et d'être entraîneur d'une équipe nationale? C'est quoi, tes projets? Qu'est-ce qui pousserait en tout cas à continuer justement à essayer un petit peu de te lancer des défis?
Moi j'ai 3 défis, je vais pas dire majeurs, mais j'ai 3 choses qui me boostent un petit peu à l'intérieur. Entraîner un jour une équipe qui joue au niveau national, donc différentes catégories de U15 nationaux, U17 ou U19, parce que mon diplôme du BEF me le permet. Je rêve d'une expérience en Corse, sur l'île de Beauté, parce que je trouve que y a une ferveur quand même axée au niveau du foot, où les gars sont vraiment fiers de défendre leur maillot, leur couleur. Je trouve qu'en Corse, il y a quand même un parfum un petit peu particulier, et j'aimerais bien un jour connaître cette expérience-là. Et puis le troisième défi, ce serait d'avoir une aventure d'entraîneur à l'étranger. Donc ça s'est joué à pas grand-chose que je parte faire un séjour de 5 mois à Saint-Pierre-et-Miquelon. J'avais répondu à un CV il y a quelque temps, et ça s'est joué à pas grand-chose, parce que du 15 mai à fin septembre, il y avait une saison de foot qui pouvait être faite à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc je m'étais dit que ça pouvait être un challenge un petit peu sympa à relever, puisque la saison sportive à Toulon redémarque le 27 ou le 28 septembre. Donc je m'étais dit pourquoi pas essayer de connaître une petite aventure comme ça à l'étranger. Voilà, moi j'espère qu'avant la fin de mes jours, je pourrai un jour partir entraîner à l'étranger pour avoir une petite expérience dans un autre pays. L'Amérique du Sud me plairait beaucoup. J'ai des origines italiennes. Pouvoir entraîner un jour une équipe en Italie, pour moi, je crois que ce serait le sommet